lundi soir sur Fusion. Installé dans le grand canapé noir du studio Georges Debs, Ignace en toute intimité vous fait découvrir son invité pour un moment privé en tête à tête, tous les lundis soirs de 21h à 23h. Salon privé, une émission de la nuit sur Fusion.
Bonsoir, c'est Salon Privé sur Fusion jusqu'à 23h. Merci de nous avoir rejoints. Nous avons le privilège de recevoir ce soir le sénateur de Martinique, Maurice Santis. Homme politique d'expérience, Maurice Santis a derrière lui une longue carrière. Militant de gauche depuis très jeune, notre sénateur n'en a pas moins fait au service de la jeunesse de Martinique. Enseignant, professeur de lettres, il anime la vie culturelle et sportive de sa commune, dont il deviendra le maire en 1995. Sa carrière politique le conduira à occuper plusieurs postes électifs, maire, conseiller général, conseiller régional et sénateur depuis 2011, réélu en 2017. Maurice Santis est passionnément franciscain. Maurice Santis est profondément martiniquais. Homme de culture et féru de sport, notre sénateur a à son actif des actions marquantes dans ses domaines, tant au François que dans l'ensemble du pays. Maurice Santis, bonsoir et merci de nous consacrer votre soirée.
Bonsoir Ignace et bonsoir à tous les auditeurs.
J'ai dit à l'instant, Maurice Santis, que vous étiez passionnément franciscain. Est-ce que le terme passionnément est suffisant ?
Il est suffisant, parce qu'il correspond bien à ma conception de la vie. Se battre sur une partie du territoire, mais se battre pour le territoire. Donc ça me convient, je suis passionnément, mais intelligemment, pour contrer ceux qui penseraient au chauvinisme imbécile. Je suis un chauvin ouvert, disons.
Profondément martiniquais.
Profondément martiniquais,
absolument. Également. Des liens familiaux, et toi, une famille nombreuse, et puis des amitiés de jeunesse profondes et durables au François.
Absolument, et famille nombreuse, c'est vrai, nous étions 9 enfants, très vite nous sommes passés à 8. 8 enfants dans des conditions peu favorables, dans des conditions plutôt humbles, plutôt dans un dénuement assez important, mais heureux parce que les parents nous ont donné tout, mais en même temps du rien qu'ils avaient. Et nous avons grandi dans ce dénouement, mais avec un grand bonheur. Et ils nous ont permis de nous construire dans ce dénouement et par là même donner du sens à notre vie.
Racontez-nous le François de votre époque, le François de votre jeunesse.
Oui, c'est
quand j'ai dit des amitiés profondes et durables, je ne me suis pas trompé.
Non, pas du tout. Et mes amitiés profondes et durables dépassent même les limites de la commune. Mais c'est vrai que nous étions bien avec tout le monde, parce qu'il y avait... qu'est-ce qui pouvait nous séparer, au François, les uns des autres ? Mais rien, c'est un quotidien de combat pour les parents. Mon enfance se résume à quoi ? C'est une dame, ma mère, un monsieur, mon père, qui se sont battus jour après jour, pensant le midi en nous donnant à manger, ayant déjà l'esprit sur le lendemain pour savoir ce qu'il y aurait à manger. Et toute la vie, c'était ça. Je revois encore ma mère dans sa grande bassine de linge, puisque c'était à la main qu'elle lavait le linge. L'après-midi, c'était la couture, parce qu'elle les faisait elle-même, et mon père qui s'en allait de temps en temps à la mer en quête de quoi vendre pour nous donner notre matériel de classe. Mon enfance, c'est aussi comme complément pour mon père, c'était un élevage de cochons de l'autre côté du canal du François, et nous allions à tour de rôle porter à pied à manger pour les cochons. Donc nous avions une quête quotidienne chez les voisins de manger cochons pour élever nos cochons et les vendre le dimanche au marché, quand il y avait des petits. Et c'est de là que nous, que les parents réussissaient à nous donner nos cahiers de classe et nos livres d'école. Je le dis vraiment avec un grand bonheur parce que, et un grand respect pour les parents parce que personne ne me demande d'oublier ça. C'est dans ce milieu que j'ai été élevé, que j'ai été fabriqué, que j'ai eu les yeux ouverts sur le monde. Et nous étions heureux dans ce dénouement. Et c'est lorsque plus tard, nous nous sommes rendus compte qu'il existait mieux, que nous avons pris conscience de notre petite misère. Et je peux vous assurer que nous avons été choyés dans ce milieu difficile, sans savoir que c'était un milieu difficile.
Ces conditions-là, est-ce qu'elles ont influé sur vos choix politiques après ?
Je pense. Je pense parce que j'ai vu des gens trimer. Et plus tard, j'ai compris que le monde dans lequel je vivais n'était pas seulement aux gens qui trimaient, qu'il y avait des gens, il n'y avait rien en dessous. Mais au-dessus, il y avait plein d'autres niveaux. Et petit à petit, peut-être même inconsciemment, j'ai été imprégné de cette mission que je me voyais confier, dire que ce n'était pas possible, dire qu'il fallait mieux. Il n'y avait pas d'hygiène chez moi, je n'avais qu'un robinet à la maison, qu'un robinet. Donc vous imaginez facilement tout le reste. Et mes parents nous ont apporté des notions de richesse qui étaient l'honneur et puis respect. Je revois encore ma mère me disant... me disant de dire bonjour aux gens, de respecter les plus grands, etc. Et c'était tous les jours. Et cette femme-là et cet homme-là, c'était leur passion d'élever leurs 8 enfants en souhaitant quotidiennement qu'ils arrivent à faire quelque chose de leur vie. Eh bien, nous ne sommes pas sortis si mal que ça, mes frères et sœurs. Et dans ce François de mon enfance,
où vous avez lié beaucoup d'amitié, je suppose.
Énormément. Beaucoup, beaucoup d'amitié. Vous m'amenez à parler de l'école. L'école, j'aime à dire que l'école était, de mon point de vue, sans qu'on le sache d'ailleurs, c'était la porte vers le mieux, la porte vers le meilleur. À cette époque-là, c'était 2 ou 3 élèves qui allaient au lycée, après la classe de 3e. J'ai eu la chance d'aller en classe à Fort-de-France dès la 4e. Ceci m'a encore permis d'être un privilégié parmi mes amis. Mais Ignace, je vais me permettre de vous raconter très rapidement deux petites choses. J'étais dans une éducation religieuse. J'étais très tôt enfant de cœur, chef enfant de cœur en plus. Donc j'avais quelques privilèges d'être chef des enfants de cœur. J'ai été également très tôt mis en contact avec l'art, le classique, le chant choral, etc. Mais j'ai été aussi à l'école, et vous devez vous en rappeler, cette période où j'étais au primaire, c'est une période où la mortalité infantile était très importante en Martinique. Et je me rappelle que tous les jours, il y avait un enterrement d'enfants. C'était dû aux maladies de l'époque. Et l'État avait lancé un programme contre cette mortalité. Et c'était la période de distribution de yaourt à l'école et puis de lait aussi à l'école. Donc vous vous rappelez bien. Et quelque chose m'a marqué. Je ne l'ai pas dit souvent, mais je vais le donner en scoop. C'est que je suis persuadé que le chiffre 1 m'a persécuté toute ma vie. Toute ma vie. Je vais écrire d'ailleurs cette histoire. Quand nous étions en file indienne vers le médecin, tout petit en classe, dans l'école, puisqu'il y avait aussi une période de vaccination qui accompagnait cette période de distribution de yaourt, eh bien, nous étions forcément en file indienne. Et chacun attendait le passage de celui qui sortait des bras du médecin pour lui demander ça
est-ce
fait
que
mal?
Ça fait mal.
Est-ce que ça fait mal? Et il n'y avait que ça comme recours. Nous étions perdus dans la file, à aller tendre l'épaule pour ce fameux vaccin, mais pour nous, c'était pitchy. Eh bien, il n'y a, figurez-vous, que j'ai passé 5 ans au primaire, mais avec mon nom, j'étais toujours le premier de la liste alphabétique.
Ah ouais.
Vous imaginez mon drame. Je n'avais personne à qui demander est-ce que ça fait mal, puisque j'étais toujours le premier à être jeté dans les bras du médecin et de l'infirmière, opération qui s'accompagnait de bruits bizarres, les bruits des aiguilles dans ces boîtes dans ces boîtes d'aluminium, enfin je ne sais pas trop de quoi, et il fallait que je tende dans l'inconnu, et aucune expérience, mon épaule. Ben, j'ai souffert de ça dans mon enfance, mais il fallait le faire. Mais il fallait être premier. Et j'ai été aussi souvent premier aussi.
À la longue, ça vous a bien réussi quand même.
Oui, il semblerait, puisque je suis encore vivant, donc ça m'a fait un grand bien, mais ça m'a apporté aussi une expérience que d'autres n'ont pas.
Monsieur Antiste, vous avez choisi 3 questions. Vous avez choisi la 5, la 3 et la 2. Voici la question numéro 3.
Comment est née votre passion pour la littérature?
Je suis en train de me poser des questions, mais où vous avez pris autant d'informations sur
je
moi?
Je connais Maurice Antiste.
Et je suis étonné. Mais c'est vrai, très tôt, les lettres m'ont accaparé. Je ne sais pas en fait d'où ça vient, puisque je n'étais pas censé être touché par ces choses-là, vu le milieu dans lequel j'étais. C'était un milieu sans radio, encore moins la télé qui est arrivée à une période. Il n'y avait pas d'électricité à la maison. Et donc, je n'avais accès que très rarement à un bouquin, un livre que je m'empressais de lire. J'étais comme tous les autres jeunes aussi, féru de lecture de Zambla, Buck John, Tarzan et autres, Black Le Rock, etc. Et puis, très tôt, d'où ça m'est venu, je ne sais pas, dans ma quête au mieux pour mes parents et au mieux pour moi-même, au mieux pour mes sœurs, très vite, j'ai compris que ça ne pouvait plus durer, quoi, que cette situation ne pouvait plus durer. Celle de mes voisins, celle des gens de la partie basse du bourg, de ma commune, etc. Et puis j'ai découvert également que Buck John, que Zambla, que Tarzan et tous les autres, qui nous passionnaient à l'époque, étaient un piège dans lequel nous étions tombés. Et de même que quand j'allais au cinéma, puisque j'étais enfant de cœur, donc j'avais droit au cinéma gratuitement, donc j'allais voir tous les films, et je me surprenais à crier aussi « Issalé, Issalé !» lorsqu'on matait un autochtone, que ce soit les Rouges d'Amérique ou que ce soit les Noirs d'Afrique. Et puis petit à petit, j'ai pu prendre conscience, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand je dis Issalé, est-ce que je ne donne pas la main à ceux qui me détruisent? Et en fait, j'ai compris très tôt que c'était là des organes de propagande dans la tête des jeunes que nous étions assoiffés de nouvelles, assoiffés du monde, assoiffés de mondes différents, etc. Et c'est de là que je suis passé des illustrés à des ouvrages. Et c'est peut-être de là qu'est né mon amour pour la littérature. C'est vrai que je suis un passionné. C'est vrai.
Nous allons marquer une première pause musicale, Maurice Antiste, et puis on revient après.
D'accord. Thank you.
I can't see.
Pas oublié.
Don't forget.
M'en vinifié.
I'm bound to die.
Désespéré.
Discreet.
Ouais, qu'à pleurer.
I'm weeping.
Oui, m'en garé.
Because I was wrong.
Ouais, pas j'aimé.
I couldn't stand upright.
Oui, m'en tombé.
I was overturned.
Ouais, t'es blessé.
I did harm myself.
C'est qui pensait.
You killed me.
Pas moi l'homme.
Stretch your hand to me.
En légimé.
All along my way.
Jusqu'à demain.
Forever.
Poussez l'amour.
Your love.
Elle est sans nous.
I want to be like you.
Oui, joie.
Like your son.
Ouais, joie.
To reach to your life.
Si ellos puse, se ensayó para la escuela.
Vous êtes dans Salon Privé, vous êtes sur Fusion. Depuis 21h, nous recevons Maurice Tantiste, qui va rester en notre compagnie jusqu'à 23h. Maurice Tantiste nous disait à l'instant son goût pour la littérature. Après avoir, mon Dieu, comment dire, après avoir dévoré les petits illustrés de l'époque, il est passé à des choses plus sérieuses et plus enrichissantes.
Oui, en effet, et puis ça a correspondu aussi à des profs que j'ai pu rencontrer en route. Je rappelle que quand première, seconde, première et terminale, j'étais piqué par ce virus de ce monde nouveau à découvrir, mais à travers le livre, à travers la lecture, etc. Et ça m'a marqué jusqu'ici d'ailleurs. J'ai un bac donc littéraire. Après ce bac-là, je n'ai pas pu entamer des études parce que mes parents ne pouvaient pas, ils n'avaient pas les moyens. Je suis cinquième d'une famille de 8 enfants, premier garçon, et j'ai compris que mon père, ma petite force naissante, mes petits muscles grandissants, mon père a vu en moi le matelot idéal. En tant que premier garçon, le matelot idéal. Et ma mère, je la revois encore, mon père venant tout doucement me réveiller le matin pour me dire « Quoi monter puis moi ?»« Quoi monter puis moi ?» Ça veut dire « Est-ce que je vais en mer avec lui ?» Nous n'avions pas de moteur. Il était trop faible financièrement pour avoir un moteur, donc c'était à l'aviron. Et il sentait que j'étais devenu une aide précieuse.
Un bon second.
Et ma mère, qui ne ratait rien de cet épisode, lui disait « Mais quittez-tu, maman, elle a dormi. Quittez-tu, maman, elle a dormi. Trop petit. » J'entends encore leur voix dans cette maison de bois semi-pourri dans laquelle nous vivions, rafistolée en termes de cloison de pièces venant de divers lieux, avec une communication permanente entre la pièce d'à côté et celle où nous étions, parce que le bois était pourri et que ça laissait des espèces de petites lucarnes non voulues, en tout cas. Donc, j'ai pu, après le bac, commencer à enseigner directement, et c'est seulement après
que j'ai fait les études. Ça se faisait souvent à l'époque.
Mais ça se faisait souvent, absolument. C'était une pratique. Et c'est en allant inscrire ma sœur, ma petite sœur à l'université, que je me suis dit, en l'attendant, je me suis dit, mais j'aurais pu y aller aussi. Comme ça que ça s'est passé. Et je suis allé. Donc, j'ai commencé à enseigner et j'ai fait des études après. Évidemment, des études littéraires que j'ai adoré. Et là, vraiment, j'ai découvert la grande littérature avec des gens comme il s'appelle, ce prof guadeloupéen qui est devenu un ami. Un ami,
Thompson.
Avec Thompson, Roger Thompson et d'autres qui m'ont Claverie, etc. Et je n'ai jamais lâché depuis, si bien que je suis à la veille de publier un certain nombre de choses qui viennent directement de ma passion pour la lecture, pour la littérature pure et le combat politique également que j'ai découvert dans mes lectures.
Vous êtes donc titulaire d'une licence de lettres modernes.
C'est ça.
Donc ça vous emmène
et de trois quarts de maîtrise. mais je n'ai pas pu parce que aller jusqu'au bout, j'ai encore le mémoire sur ma table, je n'ai pas pu le défendre parce que j'ai été happé par la politique.
Et donc vous passez du primaire au secondaire
en termes d'enseignant? Non, j'ai toujours enseigné dans le secondaire, toujours, d'accord. Toujours, jamais au primaire. Évidemment, en portant cette passion à mes élèves, en portant la passion aussi que j'ai pour le latin, puisque j'ai enseigné le latin pendant plus d'une dizaine d'années, en voyageant avec ces élèves en Italie, les latinistes, qui doivent certainement en profiter bien maintenant de ces années de latin.
Donc, vous voyez, vous voilà enseignant, vous voilà professeur de lettres.
Oui. Je passe le CAPES entre-temps,
d'accord.
Qui me permet d'être professeur certifié de lettres.
Histoire et géographie également?
Avant d'être certifié, il y avait des espèces de binômes que l'on permettait aux enseignants d'avoir dans le secondaire. Donc j'étais prof de lettres, histoire, géo. Et c'est après que j'ai passé le CAPES, à Paris d'ailleurs, donc ma nouvelle destination, c'était prof certifié de lettres. Et ça jusqu'à la fin.
Mais entre-temps, vous militez.
Oui, très tôt d'ailleurs, très tôt. Très tôt, ça m'est venu de quoi du nom. C'est terrible, mais j'aime à l'expliquer. Je m'interdisais de dire non à une situation et se contenter de dire non sans dire oui pourquoi, oui quoi, qu'est-ce que vous apportez de plus. Et c'est tout simplement de là qu'est venu mon engagement. J'ai dit non à la situation que je découvrais, à cette situation d'inégalité totale entre plusieurs couches de cette société, à un certain nombre de profitations que je voyais encore. J'ai vécu encore la période juste avant la fin des usines de sucre. Il y en avait une pas loin de chez moi, dont la corne de brume martelait et ponctuait nos vies. Toutes nos journées étaient marquées par ça. Et donc, j'ai pu comprendre très tôt un certain nombre de situations. Et j'ai dit non, qu'il ne fallait pas ça. Et en disant non, je me suis dit, mais il faut dire oui à quelque chose. Et le oui à quelque chose, c'était l'engagement politique. Donc, j'ai été très tôt dans le combat franciscain, militant et même souvent le plus jeune orateur dans des combats qui ne me concernent presque pas, qui ne me concernaient presque pas, puisque je n'avais pas l'âge de vote. Et je n'oublierai pas ça non plus.
Votre première élection, vous vous en souvenez, c'était à quelle occasion? Vous avez été élu maire,
oui.
En 1995, j'ai
bonne
mémoire.
C'est ça. J'ai été élu maire en 1900. Mais il faut dire aussi que j'ai toujours refusé d'être un élu. Je voulais rester à la base. Et longtemps avant 1995, j'ai reçu des propositions pour être sur des listes, pour accompagner des mouvements. Le maire de l'époque était venu me voir en 1976, je n'oublie pas, pour me faire des propositions déjà en politique. J'étais un peu trop jeune, j'attendais d'y voir un petit peu plus clair. Et puis, nous avons fini par monter un groupe politique très tôt.
Le MPF.
Le MPF, ça c'est en 1982. Le MPF, où nous nous sommes dit qu'il fallait... Il fallait faire des propositions, il ne fallait pas se contenter de dire non, mais qu'il fallait faire des propositions. Et le MPF est né en 1982, Mouvement Populaire Franciscain. J'y étais, mais si on regarde bien toutes les listes de nos premiers combats, ben on n'y voit pas mon nom, parce que je refusais d'être sur la liste. Quand j'ai pu accepter sous la pression des uns et des autres, et ma popularité se faisant jour de plus en plus, j'ai accepté d'être le dernier sur la liste dans une des élections. Et après ça, j'ai accepté d'être un petit peu plus haut qu'un dernier. Et puis jusqu'au jour où j'ai été pris au piège, c'est en 1994, j'ai été pris au piège où on m'a dit « il faut que tu ailles à ces cantonales qui se déroulaient sur le François ». J'y suis allé et l'écart avec celui qui me battait, qui était l'ancien maire, c'était 100 voix. Quand j'ai vu 100 voix d'écart, vous comprenez
Vous aviez quel âge à l'époque?
J'avais 39 ans, je pense, à peu près. Et j'ai compris que je ne pouvais plus échapper à la griffe de mes amis, quoi, qui insistaient pour que je sois candidat. et je l'ai été tête de liste en 1995. Et il ne s'était pas trompé, puisque je suis passé avec 3000 voix d'écart. J'ai battu le maire de l'époque, avec qui, que nous soutenions avant. Mais il y a eu des désaccords entre-temps. Et je préfère vous dire dès maintenant que nous nous sommes retrouvés, l'ancien maire et moi-même, nous nous sommes retrouvés à être des amis aujourd'hui, parce qu'en fait, nous avions compris tous les deux que nous nous sommes opposés longuement autrefois, mais qu'aujourd'hui, qu'il y avait de la place pour partager des émotions, des pratiques, etc.
Est-ce que quand on est élu comme cela, est-ce que dans sa tête, on se monte un plan de carrière?
Non. Non. Et vous me mettez à l'esprit un moment que vous allez lire certainement dans l'un des ouvrages que je prépare. Et c'est un moment qui est fondamental. C'est le soir des élections, au moment où les chiffres commençaient à tomber. J'étais tout seul dans un siège, j'étais à l'étage, les amis étaient en bas à faire de la comptabilité, des résultats bureau par bureau, et j'étais là-haut tout seul dans une chambre où il n'y avait pas de lumière. C'était une chambre, mais comme nous avions loué cette bâtisse, c'était devenu un bureau. J'étais tout seul, mais il y avait une panne de lumière, je n'oublie pas. Et chose curieuse, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'entendais la rumeur dans la ville. C'était une maison dans le bourg. J'entendais certaines réflexions qui venaient du rez-de-chaussée.
Et vous aviez compris que vous étiez élu.
Mais oui, mais j'avais peur. J'avais peur. Et c'est la première fois que je raconte cela sur une antenne. J'ai eu peur parce que je sentais que résultat après résultat, bureau après bureau, qu'il se passait quelque chose. J'entendais la rumeur monter, enfler, on me cherchait. Et je vous assure que c'est le moment où j'ai été le plus seul de ma vie. Le plus seul. Dans cette chambre noire, loin de tout, mais la rumeur si proche de moi. Et j'ai eu comme réflexion la chose suivante. Je me suis mis à prier. Et j'ai dit, bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, l'image de Golgotha, pour parler Bible, cette image-là m'est revenue. Où, au Mont des Oliviers, le Christ, je le prends comme un récit historique, le Christ dit, mais vous m'avez abandonné. J'ai ressenti la même émotion ce soir-là. J'ai dit, mais pourquoi moi, 18 000 habitants, pourquoi avez-vous fait le choix? Pourquoi avez-vous fait ce choix? Pourquoi moi? Il y en avait tant d'autres. J'ai paniqué. Mais ça, j'ai paniqué avec moi-même, avec ma conscience. Et c'était bien ça. Et on a fini par venir me chercher pour me dire voilà, que c'était écrasant, que c'était une belle victoire, etc. C'est un souvenir qui ne me laissera jamais.
Donc, pas de plan de carrière?
Non. Non, parce que, et même que je me rappelle les journalistes qui sont venus me voir ce soir-là, je me rappelle leur avoir dit, me questionnant sur mon ressenti, sur les émotions du moment, et je me rappelle avoir dit à un ou deux, je suis en train de penser au moment où il faudra quitter ce siège, alors que je n'étais même pas, j'étais élu le soir au nombre de voix, mais je n'étais pas encore élu maire, parce que c'est le moment de raconter aux gens qu'ils élisent une liste électorale, mais que c'est après, c'est le conseil municipal qui élit le maire. Donc je n'étais pas encore tout à fait maire, et j'ai eu cette panique. Donc cette panique n'a pas amené chez moi la fuite, loin de là, mais cette panique a amené chez moi une réflexion saine sur « il ne faut pas que j'en fasse ma chose, il ne faut pas que je m'engage trop pour moi-même et pour ma carrière, mais qu'il faut déjà penser au jour où il faudrait quitter ce poste. Mais je ne savais pas comment ça allait se passer. Je ne savais pas que j'aurais été élu 4 fois de suite, que j'aurais été 4 mandats, enfin 3 mandats et demi, etc. Et donc, pas de plan de carrière, ça, je vous l'assure.
On va marquer une deuxième pause musicale. Vous avez un choix musical, Maurice Antiste?
Ben, je vais être franc avec vous. J'ai un tel respect pour la personne qui m'interviewe, là, que je lui fais confiance, et nos atomes crochus ont été tellement communs dans depuis que nous nous connaissons et depuis très longtemps, que je vous fais confiance.
Merci de votre confiance.
Laura. Vivons-moi et dis-moi, chérie, sois à moi pour la vie. Moi, lycée en sirène, qui fait moi, j'étais là. Il beau moi, il fait moi, un maille, et puis quittez-moi. Laisse-moi réfléchir, moi, lycée en sirène, qui fait moi, j'étais là.